dans cet entretien, je proposerai de suivre trois temps. Tout d'abord, revenir sur ton cheminement. Ensuite, évoquer la question des transmissions. Et puis, terminer avec la question des interventions en tant qu'écrivaine, en tant qu'auteur, dans la cité, ta position par rapport à tous les engagements que tu mènes. Donc d'abord, revenir un peu sur ton cheminement, sur ton œuvre. Bon, tu es né en 1965 à Bayonne, où tu vis. Pour décrire un peu toute ton activité, on pourrait prendre l'image de la Rose des Vents et suivre quatre points cardinaux. Professeur de lettres classiques, traductrice, écrivaine, activiste. Alors, on va essayer de circuler un petit peu entre ces points cardinaux. Depuis 2003, alors tu as écrit auparavant, tu as commencé à publier en revue, comme tous les écrivains, la revue Harpa, par exemple, la revue Fario, où j'ai eu d'ailleurs la chance de te rencontrer, enfin de rencontrer tes textes, tes traductions. Depuis 2003, 25 livres. Donc c'est une œuvre qui avance, qui s'avance. J'avais tenté de chronologiser un petit peu, parce que je suis de formation historienne, et vous savez, la manie des historiens, c'est de mettre des dates et d'essayer de chronologiser. On pourrait peut-être dire qu'entre 2003 et 2008, il y a une première période, le Seine perdu, de livres principalement publiés, puisque les éditeurs aussi, peut-être qu'on pourra y revenir sur la place et le rôle des éditeurs, principalement publiés aux éditions du Chêne, par de l'expérience de l'intime, de l'amour. À partir de 2008, avec la parution de « Entre chagrin et néant », la question de l'engagement, de la fonction de l'écrivain, de l'écriture, vient peut-être au premier plan. Évidemment, ce ne sont que des suppositions, peut-être que je me trompe complètement, mais c'est ce qui me semble. Et Marie-Hélène Boblé a écrit d'ailleurs dans la revue du MOS un article qui creuse cette question-là. Je me permettrai de non seulement d'y faire allusion, mais de réutiliser un petit peu quelques éléments là-dessus. Alors, est-ce que ce sentiment qu'on peut avoir en regardant ta bibliographie déjà considérable, d'un basculement, d'un moment clé où l'activiste et l'écrivaine cohabitent, comment est-ce que tu as vécu vraiment, est-ce que tu vois un moment de basculement, ou est-ce que ça a toujours été ça?
Il n'y a pas de moment de basculement, sauf qu'on doit bien t'écouter. Puis c'est vrai que les textes publiés avant 2008, ce sont des textes qui sont plus intimistes, comme tu as dit. Encore que la question qui ravage, la question amoureuse, c'est une question qui ravage aussi intimement. Je ne crois pas que je fasse une partition comme ça, pas du tout. Mais du point de vue de la vie, et non pas de ce qui se publie, parce que finalement, ce que j'ai publié au fur et à mesure, ça a l'air beaucoup, mais c'est qu'une trace, en fait. C'est qu'une trace des choses de la vie qui passe. Moi, je ne l'ai pas vécu. Je n'ai pas vécu un basculement. J'ai vécu des prises de conscience différentes à des moments, et c'est normal. Dans les années 90, ce n'était pas la même chose que... Et en 2007, il se passe des choses qui font que, oui, à ce moment-là, puisque j'ai des éditeurs déjà, eh ben, j'en profite pour écrire et publier des choses que peut-être jusqu'à présent, j'écrivais sur des blogs ou que j'écrivais pas, d'ailleurs, je sais pas, ou que j'écrivais comme ça. Mais c'est vrai que les outils qui ont été à ma disposition à partir de là ont permis et m'ont permis d'écrire ce que je faisais. Parce que aller aux audiences devant une juge des libertés, j'y allais avant de l'écrire. Ou tu as cité la CIMADE, mais la CIMADE, c'est pas... C'était un engagement insuffisant, hein, mais c'était... Enfin, voilà, j'étais dans des formes d'engagement bien avant 2007, qui était dans le concret, dans le... Voilà, je vis à un endroit aussi, peut-être ça explique, hein, je vis à Bayonne, je vis au Pays Basque, c'est le Pays Basque Nord, c'est un pays qui a été... j'ai vécu une époque où c'était pas... Où vivre au Pays Basque, forcément, on était engagé politiquement. Enfin, c'était, ça se posait pas la question, se posait pas. Du coup, j'ai pas, c'est pas un basculement à un moment donné, c'est un changement dans les formes d'édition, de publication, d'accès à la réception, hein, on disait. Voilà, ça oui, pour le coup. Mais et peut-être que alors 2007, la généralisation de ce qui existe déjà, c'est les centres de rétention en Europe partout et en France et aussi à l'endroit où je vis, à Hendaye, à la frontière entre l'Espagne et le Pays Basque espagnol, le Pays Basque français. Ce centre de rétention qui existait déjà, mais qui a été à ce moment-là, en 2007-2008, agrandi, perfectionné, etc., qui s'est mis à recevoir des familles, des enfants, donc. Là, c'est vrai que c'est une étape, une prise de conscience sur le délit que constitue le passage de frontière Schengen, hein, voilà, puisque là, il s'agissait de passer la frontière France-Espagne, on en est, voilà, et ce délit qui n'en était pas, en tout cas, les gens qui passent cette frontière sont mis en rétention 18 mois, enfin, ça, au début, c'était pas 18 mois, puis c'est devenu progressivement 18 mois, et donc cette conscience-là, voilà, c'était une autre étape, disons. Voilà. À chaque fois qu'il y a eu une étape dans les politiques d'immigration ou dans les politiques d'empêchement, en fait, à une partie de la population de circuler librement, ben, j'y étais attentive. Il se trouve que là, j'avais un éditeur. Voilà.
Et ça signifie, par exemple, que ton engagement politique s'enracine à quel moment? Très tôt, dans l'adolescence et dans ton cheminement, dans une construction,
je
à partir du moment
comment ça s'enclenche? Je ne veux pas le mythifier du tout, parce que c'est idée à la fois un peu compliqué, puisque ce que je disais, j'ai une histoire qui n'est pas complètement parallèle à l'histoire française. Mes années 80, ce n'est pas les mêmes que voilà, je viens d'une autre histoire un peu. Mais donc je veux pas mythifier ça, parce que c'est pas intéressant. Et puis en plus, j'ai eu des, enfin, comme tout le monde, j'ai des moments où la vie publique et collective m'a beaucoup intéressée, puis des moments de repli parce que mes enfants sont nés, parce que voilà, pour tout un tas de raisons. Mais la prise de conscience qu'une injustice fondamentale était au cœur de nos vies à tous, oui, je l'ai toujours eue depuis la petite enfance. Peut-être la première, si on me demande vraiment quelle est la première prise de conscience, alors qu'on pourrait appeler après coup politique, j'étais jeune, j'avais 9 ans, parce que c'est j'avais pas 9 ans. Hein. C'est Christian Ranucci, c'est la peine de mort. Ça, c'est une un vrai traumatisme, parce que je vivais à Bayonne, mais nous allions à Bordeaux, et le procureur qui avait demandé la peine de mort, il se trouve que pour des raisons familiales compliquées, c'est des gens qu'on voyait, enfin, que mes parents voyaient. Et c'était quelque chose qui était très, 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 très physiquement vécu. Enfin, voilà, je suis devenue folle de ça. J'en suis devenue folle. À 9 ans, je suis devenue folle de la peine de mort, enfin, de la violence que ça me faisait. Du coup, oui, je pourrais faire remonter peut-être la conscience, une conscience qu'on est impuissant, en fait, et qu'on cherche des petites puissances, mais qu'on est fondamentalement impuissant devant l'injustice radicale ou la capacité à punir d'une manière... voilà, ça, c'est venu très, très jeune. Voilà. Après, j'en ai pas fait usage forcément tout le temps de cette conscience-là, ni forcément bien, enfin...
Et le début de l'écriture?
C'est là.
C'est là.
Ouais.
C'est directement lié.
Ouais. C'est directement lié. C'est à cet âge-là, ouais. Et c'est complète, et c'est tout à fait lié à cette histoire où... bon, voilà. On n'en va pas parler maintenant, parce que... J'ai écrit quand même, mais vraiment beaucoup plus tard, j'ai écrit quelque chose sur sur les grands procès. Je crois que c'est un culte
qui
avait publié.
Oui, c'est un culte. Volume collectif où justement on retrouvait Mathieu Larnaudi, Arnaud Bertina, enfin toute l'équipe.
Voilà. Moi j'avais raconté le procès à Christian Ranucci que défendait quand même Gilbert Collard. C'était mon héros quand j'avais 9 ans. Enfin, on ne va pas l'oublier quand même. C'est dingue.
Et alors sur les deux autres points cardinaux, la traductrice et l'enseignante, alors d'abord, quel lien entre la traduction et la création? Là, on voit bien que c'est vraiment nodal et au point de départ à la fois la conscience politique et l'écriture. Pour la traduction, pour l'enseignement, quel lien Alors d'abord, quel lien entre la traduction et la création, vraiment l'écriture?
Alors, je ne sais pas, parce que après coup, là encore, je dois bien me rendre compte que je traduis, et le plaisir que j'ai à traduire et à mettre une langue ou un texte, ou plutôt des phrases d'abord à plat, enfin, à les dérouler pour les recomposer, j'adore ça. Et c'est sans doute un plaisir aussi grand que le plaisir de lecture ou que le plaisir d'écriture. Mais après, je ne sais pas ce que ça donne quand on en est lecteur ou récepteur. Je ne le mesure pas du tout en le faisant. Mais pour moi, c'est un plaisir qui est très, très, très proche du plaisir d'écrire. Voilà. C'est presque un plaisir, je ne vais pas dire plus grand, moins grand, j'en sais rien, mais c'est d'autres besoins, d'autres plaisirs. Mais c'est le même plaisir d'écrire avec en moins... l'angoisse sur qu'est-ce qu'on va écrire, en fait, c'est déjà là. Et non seulement c'est déjà là, mais en plus, c'est bon. Enfin, on sait déjà que c'est que ça vaut le coup, quoi. Du coup, c'est quand même assez confortable, pour les petits moments de creux et tout, un bon moment de traduction, c'est vraiment, vraiment bien. Après, ça ne veut pas dire que le résultat est intéressant. Ça, c'est une autre question. Mais sur le geste et sur le... Voilà. Donc ça, il y a pour moi un rapport évident qui est de l'écriture, en fait. C'est vraiment... après, c'est écrire et à la fois être complètement dans le travail de l'autre, le précédent, donc en l'occurrence Ovide ou Virgile, mais finalement écrire aussi. C'est aussi être sur les traces de quelqu'un d'autre, que ce soit... ça dépend des textes et ça dépend, mais dans Entre chagrin et néant, c'était évident que c'était écrit avec des gens qui parlent et qui sont là et dont les paroles sont restituées ou gentiment déformées, mais j'ai fait exprès de dire comme ça un peu enfantinement, mais déformées parfois, passées à un autre, passées dans quelque chose en fait, mais n'empêche, les gens sont là, mais pour du roman, ou par exemple celui que tu as sorti, là, Les enfants de l'aurore, il y a aussi des auteurs qui précèdent. Ce n'est pas de la traduction, mais il y a Euripide, mais on a Sophocle aussi, beaucoup de Homère. Donc en fait, il y a toujours un autre. Il y a toujours un autre dans les textes. Je ne pense pas... Même le roman, peut-être ce que j'ai fait, qui est plus de l'ordre du roman, que j'espère un roman policier, même c'est Cordélia la guerre, et là il y a aussi le roi Lear. Je suis vraiment la construction du roi Lear. Voilà, donc je ne sais pas, je n'invente pas, en fait. J'écris toujours avec quelqu'un, toujours avec un autre.
Toujours enchevêtré.
Oui, toujours enchevêtré, que ce soit un vieux mort ou que ce soit des jeunes vivants.
Ce qu'on retrouve aussi dans la bataille d'Angari.
Oui, c'est vrai.
Alors, il y a justement sur l'autre pôle qui est de la transmission. Là, tu as bien montré comment c'était une transmission continue, ce dialogue entre l'écriture et la traduction. La question de l'enseignement, d'être enseignante, d'être enseignant. Je voudrais creuser un peu ça. La fonction spécifique de l'écrivain, de l'écrivaine professeur dans la cité, quelle est-elle? Bernard Lahir, dans la condition littéraire, identifie bien que la majorité des écrivains sont aussi enseignants. Comment tu le...
La vérité. La vérité, non, c'est compliqué parce qu'on devient un peu enseignant par hasard parfois, et enfin on passe les concours quand même, mais j'ai passé ces concours à un âge où, comme plein de gens, hein, où j'étais incapable, et toujours d'ailleurs, de dire j'ai quelque chose à transmettre ou je vais transmettre quelque chose, mais toujours pas, mais ça c'est vraiment une question sur, on ne sait pas grand-chose, et je n'avais pas forcément non plus un grand désir d'être à cette place-là qui serait, en tout cas pour une heure ou une heure seulement, mais quand même une place de savoir. Et c'était même effrayant pour moi, en fait, et pas du tout confortable comme position. Du coup, j'ai, autant que j'ai pu, fait durer autre chose, tenter d'autres trucs. Et puis, j'y suis revenue. Alors, un peu pour des raisons que tout le monde imagine, les raisons qui nous font vivre. Hein, voilà. Et puis, j'ai trouvé du plaisir. Et ça, c'est la surprise, puisque c'était ça que je ne pensais pas au départ. Alors, il faut dire que c'était dans de très bonnes conditions. Alors, ça, il faut le dire, parce que ce n'est pas le même métier où qu'on le fasse. Le métier d'enseignant, il est très différent selon les endroits où on l'exerce. Et moi, j'exerçais dans un petit village qui s'appelle Bidache, qui est à 30 km de Bayonne, qui est entre le Pays Basque et le Béarn. On appelle ça Charnègue, c'est entre les deux. Et j'avais des classes où il y avait vraiment de gamins latinistes, qui faisaient tous du latin, parce qu'on était à la campagne et que c'était encore, me servait toujours, normal de mettre ses enfants en latin, parce qu'on se dit comme ça. Bon, pour des stratégies, au lycée, il faut rendre ils sont dans des bonnes classes, mais même pas la stratégie, en fait. Ça c'est maintenant, mais c'était pas du tout le cas comme il y a 20 ans. C'était normal, en fait. Du coup, voilà, j'avais vraiment de bonnes. J'ai eu. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté, mais c'est pas vieux. J'ai arrêté. J'y reprendrai peut-être, j'en sais rien. Je sais pas. Du coup, les conditions étaient très bonnes. Et l'endroit où l'école fonctionne vraiment comme elle a fonctionné. Et du coup, c'était super émouvant. Parce que, pas du tout que le passage du temps, qu'il n'y ait pas eu de passage du temps, c'est pas ça qui est émouvant, pas du tout. Mais le fait que, en fait, soit un endroit où il y ait plein de désirs d'apprendre, en fait. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que ce plein désir d'apprendre, alors peut-être je parle de quelque chose qui a l'air de pas exister. Quand on entend des témoignages, on n'entend pas ça souvent, et vraiment je l'ai vécu. Vraiment ça se vit comme ça, et ça se vit encore comme ça dans beaucoup, beaucoup de campagnes, il faut le dire. Et pas seulement d'ailleurs, j'imagine de villes aussi, ou de petites villes. Et moi-même, alors du coup, ce n'était pas du tout cette position qui m'avait inquiétée, qui était la position un peu verticale, position de savoir quelque chose et puis je vais vous l'enseigner. Ça m'angoissait complètement. Mais ça a été aussi excitant pour moi de me demander de quoi j'allais remplir une heure. Et l'idée, c'était qu'il fallait qu'en une heure, il se passe quelque chose. Voilà, c'était ça ce qui nous guidait, les élèves et moi, je crois. Et ça a été super. Ça a été super pendant 20 ans, et ça le serait encore, mais après on fatigue, parce que surtout à l'exercer comme ça, c'est beaucoup de présence, en fait, même si j'ai jamais été à temps complet, mais c'était beaucoup, beaucoup de présence, et dans le corps, et dans le... Et puis, les corps, ils vieillissent pas, et puis le sien, là, oui, et alors c'est étrange, quoi, ce rapport aux autres qui sont toujours, toujours les mêmes. Et alors, au début, on est une sorte de grande sœur à prendre vers la mère. Ah, je ne voulais pas devenir la grand-mère. Ce n'était pas possible. Je n'étais pas là. et voilà. Non, mais j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et la traduction, c'est complètement lié et dû à mes élèves, parce que comme j'avais beaucoup de latinistes et de bons latinistes, des élèves qui traduisaient vraiment du latin, on se donnait des petits défis de traduire des textes. On se donnait mutuellement des défis. Alors j'allais plus vite qu'eux, heureusement. Et donc, eux, quand ils avaient fait 5-6 vers, voilà, moi le soir, ben, je me. Voilà. Et je leur lisais les traductions d'Ovide, notamment, puisqu'au bout d'un moment, on s'est focalisé sur Ovide, que je produisais à la maison le soir, qu'ils avaient, eux, sur lesquels eux, ils avaient travaillé aussi en cours et à la maison aussi un peu, pas beaucoup. Et ça, ça a été vraiment beaucoup, beaucoup d'amitié, en fait. Voilà. on ne peut pas dire d'amitié à l'époque, mais maintenant, avec le recul et le fait qu'ils ont grandi, on peut dire ça. Hein, beaucoup de liens, beaucoup de liens. Ouais.
De liens que tu gardes,
que je garde,
tu entretiens.
Oui, la plupart, oui.
Et qui, oui. D'accord, donc là, qui oui. crée comme une sorte de société, en fait.
Oui. Oui, on continue, on a des relations. Oui. Mais après, j'ai arrêté, hein, n'empêche. J'ai arrêté, contente d'arrêter aussi, parce que c'était fatigant, parce que... pourquoi ? Parce que voilà, j'avais... Il y avait aussi une part de se dire, ben, j'y suis. Après, voilà, il y a tout le reste. Il y a la salle des profs, il y a les bulletins, il y a le machin, là, les emplois du temps à remplir. Non, je ne sais pas, le cahier de texte à remplir, enfin tout ce qui est ennuyeux, hein, tout ce qu'on sait qui est ennuyeux. Et ça, j'en avais ras-le-bol, en fait. Voilà. Donc quand j'ai arrêté, ça m'a pas... On me dit, ça t'a manqué. Mais non, ça m'a pas manqué, en fait. Des rencontres comme celles que j'ai faites à l'école, j'en fais ailleurs aussi. Donc ça m'a pas manqué. Mais c'est vrai que vraiment retrouver... le plaisir qu'à moi m'a fait l'école, moi j'étais quelqu'un qui a aimé l'école, voilà. J'ai aimé l'école, j'étais plutôt adaptée scolairement, c'est comme ça, c'est ni bien ni pas bien, c'est comme ça, et obéissante suffisamment et tout. Et j'ai aimé l'école et je l'ai aimée à un autre endroit après, voilà.
Et dans cet autre endroit, le quelque chose qui se passe, que tu trouvais dans l'heure de classe ou dans le. Et il existe aussi. Et il nourrit ton travail, ton écriture. Tu peux nous en parler de quelque chose qui se passe
en ce moment?
Oui. En ce moment, oui. Oui.
Alors, il faut que je trouve des exemples. Des exemples précis. Alors, pour rester avec la jeunesse et avec les jeunes gens et les jeunes filles, peut-être... il y a à peu près 2 ans de ça, on l'avait prévu, c'était à prévoir, les routes migratoires par l'Italie, par la Libye et par l'Italie, étant, comme on le sait, de plus en plus empêchées, de plus en plus dangereuses, on savait bien, il y a à peu près 3 ans, que la route qui était moins empruntée depuis quelque temps, depuis 2005 à peu près, elle l'était moins, qui est la route qui passe par l'Algérie, le Maroc, l'Espagne, serait de nouveau empruntée. Et on s'était un peu préparé à la frontière basque, à la frontière franco-espagnole, du côté là où j'habite, à recevoir des gens et à les orienter, aider, accompagner, enfin, en tout cas, à pouvoir être un endroit d'accueil, un endroit d'hospitalité, que ce soit un endroit d'hospitalité provisoire ou plus durable, selon les désirs des gens qui arrivaient. Du coup, ça, c'est il y a 2 ans à peu près, en effet, cette route par donc, l'Algérie, alors le Mali, donc c'est l'Afrique de l'Ouest qui passe par là, hein, les gens qui quittent les pays comme la Guinée, donc essentiellement la Guinée, la Côte d'Ivoire, essentiellement la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, c'est les trois pays, et puis aussi un peu le Cameroun, enfin pas un peu, beaucoup le Cameroun, mais c'est une autre immigration, mais enfin beaucoup le Cameroun aussi passe par là. Et donc il y a à peu près deux ans, les gens sont passés en nombre et on les a pas forcément vus s'arrêter parce qu'ils avaient des projets d'Europe, en fait, que ce soit continuer pour demander l'asile en Allemagne, c'était beaucoup ça il y a 2 ans encore, ou à Paris, en général c'est Paris parce que c'est Paris, la France c'est Paris. Et puis petit à petit, et mais nous on avait commencé à organiser, alors nous, des gens un peu concernés, mais pas forcément si concernés que ça au départ d'ailleurs, avec quelques-uns qui avions l'idée de ce qu'on souhaitait faire, continuer à se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire et surtout, qu'est-ce qu'on veut se faire en faisant ce qu'on va faire, à savoir accueillir chez soi. Qu'est-ce que ça va fabriquer dans un espace qui est un espace comme le Pays Basque, par exemple, qui est un pays qui est un pays, qui est un pays dont on a l'idée peut-être comme ça, qu'il est fermé sur lui. En tout cas, c'est vrai que c'est pas un pays de passage et c'est vrai que c'est pas un pays d'accueil facile. Les montagnes, la mer, une sorte d'identité culturelle forte et revendiquée, fortement revendiquée, et du coup une sorte de protectionnisme apparemment, en tout cas c'est ce qu'on pouvait imaginer, et donc on savait pas ce que ça allait donner en fait. Et voilà, bon, je vais pas résumé, parce que c'est pas résumable, parce que c'est compliqué, mais n'empêche qu'aujourd'hui c'est un pays qui se transforme, qui s'est transformé et qui se transforme toujours, parce que beaucoup 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 de gens sont accueillis et ne sont pas alors partiront peut-être hein, avec d'autres projets heureusement, etc., mais en tout cas c'est un pays d'accueil pour ceux qui n'avaient pas d'idée d'ailleurs ou de communauté ailleurs à rejoindre ou de famille ailleurs à rejoindre. Il y a beaucoup de possibilités dans les familles. Il y a eu... voilà, alors, si tu me dis, quelle rencontre à ce moment-là, j'essaie de trouver une histoire ou une belle rencontre. Alors, je veux parler d'un mineur, d'un enfant de 16 ans, qui est passé tout seul, le premier que j'ai, moi, accueilli chez moi et longuement, qui avait 15 ans et demi au moment où il est passé, où il a passé cette frontière, tout seul, avec des sacs plastiques, vous voyez, sur une route, là, et puis m'arrêter, lui demander, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Non, non, parce qu'il y a une méfiance normale, et puis c'était un moment, c'était il y a plus de 2 ans, hein. Donc c'était un moment où, là aujourd'hui, c'est tous les jours en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de monde passe cette frontière. C'est-à-dire c'est une frontière qui n'est pas vraiment une frontière, c'est une frontière qu'on passe, et tant mieux. C'est à Bordeaux qu'on ne passe pas en fait. C'est là où la frontière s'est déplacée à Bordeaux, hein. C'est là que ça bloque complètement. Les bus, les Flixbus, etc., c'est à Bordeaux qu'ils sont contrôlés. C'est pas du tout chez nous, contrairement à ce qu'on s'attendait. On s'attendait, en fait. On s'attendait à ce que ce soit comme avec l'Italie, en fait. Et donc, on s'était un peu formé, hein, etc., mais c'est complètement décalé et déplacé, hein, en fait. C'est Bordeaux ou Toulouse. C'est les lignes de bus, mais ça, c'est les gares internationales, on peut y contrôler. Et les gens sont renvoyés en Espagne depuis Bordeaux, depuis Toulouse. Hein, ça, c'est la nouveauté. Voilà. Et du coup, ce gamin, on a tenté de faire il y a 2 ans. Moi, c'était avec beaucoup d'ignorance de ma part, mais comme on fait avec un gamin qui est isolé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parents, qu'il n'y a pas de représentant légal. En principe, c'est le département qui doit s'occuper de lui. Ce sont les départements en France qui ont cette légitimité, et c'est donc l'aide sociale à l'enfance qui a été sollicitée, et là les problèmes ont commencé. On s'est rendu compte qu'en fait quand on est mineur, on nous disait souvent, enfin il y a 10 ans, on disait souvent, il n'y a pas de mineurs étrangers, il n'y a que des mineurs, hein, parce que on peut pas être renvoyé. Bon, on a bien vu que c'était pas du tout vrai dans les faits. Et voilà, et aujourd'hui, ce jeune homme est tailleur de pierre à Paris, il a un titre de séjour, il est régularisé, c'est une belle histoire. Mais bon, pour combien d'autres histoires qui sont moins belles et qui sont plus compliquées ? Bon, ça a été très très compliqué, cela dit, ça a été très compliqué. Mais c'est vrai que ça a été avec lui, comme avec mes élèves pour d'autres raisons, j'ai tellement suivi absolument toutes les étapes, déjà d'une part avec l'aide sociale à l'enfance, ensuite bon, tout ce qu'on pouvait faire comme recours auprès du département, tout ce qu'on a dû faire comme recours auprès de la justice, auprès des justices, puisqu'on a délocalisé à Paris après, etc. C'est vrai que ce que j'ai appris est tellement plus immense que le peu que j'ai donné, hein, j'ai donné beaucoup en temps, ça oui, mais après j'ai appris énormément de ces histoires. Donc oui, des rencontres comme ça qui soient pas liées à l'école, genre on en fait plein.
Et justement là-dessus, tu as écrit, il y a un petit livre merveilleux que tu as écrit qui s'appelle Jour de répit à Baïgorry. Oui. Publié chez Clémence Hiver.
C'est publié chez Crafise.
C'est chez Créafis.
Ça
ressemble à un film super bon. Donc un petit bouquin rouge que je vous conseille vraiment parce qu'il est, il est très fin et il décrit justement cette société. Quand tu publies ce livre, quand tu l'écris d'abord et quand tu le publies ensuite, comment tu te positionnes, comment tu dans ce moment-là, dans ce, le moment de, du combat quotidien que tu mènes en tant que militante, là que tu nous as décrit, comment le fait d'intervenir en tant qu'écrivaine, publier un livre, parler de ce que font ce nous-là que tu as évoqué sans trop le décrire précisément, mais comment tu te positionnes comme ça, comment quel écho trouve le livre ? Qu'est-ce qui fait que pour toi, ça fait une différence et qu'il y a une nécessité de dire à Baïgorry, c'est-à-dire que tu nommes clairement le village de Baïgorry et que ce que tu décris, c'est la réalité.
Bon, parce qu'en fait, ça partait de... quand j'ai commencé à aller à Baïgorry, c'est à une heure de chez moi en voiture à peu près, et je conduis très lentement. Mais du coup, je suis pas... Non, j'aime pas conduire tout ça. Donc du coup, je dis ça parce que ça voulait dire un effort d'y aller, alors que c'est pas si loin que ça. Mais Baïgorry, c'est un tout petit village qui est en effet sur la frontière, mais à l'intérieur du Pays Basque. C'est à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà. Je sais pas combien, 1700 habitants. Enfin, c'est vraiment un petit village et qui a une identité basque qui est remarquablement conservée, en fait. Les gens parlent le basque, parlent plus basque que français, parce que c'est pas sur la côte, c'est vraiment... voilà. C'est un endroit aussi qui est un endroit, et ça va peut-être paraître très, très étrange ce que je dis, et pourtant c'est vrai, où les personnes les plus âgées, mais même les jeunes, là, en l'occurrence du collège, n'ont jamais vu en noir. C'est vrai aussi. C'était vrai, par exemple, au collège de Baïgorry, il y avait parmi... Alors, j'imagine... Moi, je me disais toujours, mais quand même, ils ont des séries télévisées, etc. Ils regardent des films et tout. Alors, oui, mais n'empêche qu'il y avait cette... Il n'y a jamais eu, en tout cas, d'étrangers, quels qu'ils soient, noirs ou pas noirs, d'ailleurs, dans ce village. C'était... Alors, voilà. Et dans ce village-là, on est en 2015... On est en 2015 quand, vous savez, voilà, ce qu'on appelle la crise des réfugiés est médiatisée. La photo, la plage de Grèce, le Lesbos, la photo du petit gamin, et, etc. Et on entend que Calais, on entend Grande-Synthe, on entend, etc. Et le maire de Baïgorry, qui est un maire qu'on appelle ça Abert Salé, c'est-à-dire, si on le traduit, ça donne nationaliste, mais ce n'est pas du tout la même... connotation en basque qu'en français que nationaliste, c'est-à-dire que c'est plutôt d'identité basque, voilà, qui conserve en effet ses modes de vie, etc., mais plutôt de gauche et écolo. Et donc ce maire-là et son conseil municipal qui est de toutes sortes, hein, comme souvent dans les petits villages, c'est pas très marqué politiquement, en fait, le conseil municipal. Ce maire dit, mais enfin, nous, on a des lieux, on a beaucoup de lieux, et on nous parle de réfugiés, on nous parle de Calais, etc. Et nous, on a au moins là, tout de suite, en tout cas, 50 possibilités. Enfin, on peut loger 50 personnes très vite, sans travaux, sans rien, sans efforts, etc. Et en plus, il dit sur de lui, et en plus, je suis sûre qu'on a plein de gens autour qui pourraient donner un coup de main pour organiser, pour trouver à manger, des vêtements, etc. etc. Et donc, il fait des pieds et des mains auprès de la préfecture. Et puis finalement, bon, après, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'est un élan. Et c'est pas compliqué avec le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Et 50 Soudanais arrivent le 15 novembre 2015, c'est-à-dire 2 jours après les attentats du Bataclan. Ils arrivent là. Et c'est fou parce que moi, j'étais à Paris quand ils sont arrivés à Baïgorry. C'était que des hommes, que des Soudanais, dans un petit village comme je vous l'ai décrit. j'étais à Paris et 2 jours après les attentats, enfin, j'imagine que vous en souvenez, mais en province, on avait vécu, évidemment que c'était un choc, évidemment, pour tout le monde, et on avait tous quelqu'un qu'on connaît qui était là, etc. Mais on n'était pas dans une sorte de terreur irrationnelle, en fait. Je crois que c'est ça la différence, en fait. C'est qu'on était incroyablement secoué par ce qui s'était passé, bien sûr, intellectuellement et tout ça, mais on n'était pas dans une peur, panique pour soi, pour ses proches, tout de suite. Et moi, j'étais à Paris, et justement, j'étais à la cartoucherie quelques jours après les attentats, parce que une pièce qui s'appelle « Bouc de la », qui a été montée par Caroline Panzera et qui a été jouée à la cartoucherie de Vincennes pendant un mois... que j'ai écrite avec Caroline Panzera dans les camps de réfugiés grecs, en fait, a été donc jouée à la cartoucherie. Et quelques jours après les attentats, nous avions un débat avec Logisti, Migre Europe, la CIMAD et puis moi sur l'accueil, en fait, ou le non-accueil de l'Europe des migrants. Et comme on était quelques jours après les attentats, ce débat, donc on parlait tout à l'heure de la réception et puis des publics, quels que soient les lieux de réception, ce débat à la cartoucherie n'a pas pu avoir lieu, a dû être arrêté, tellement les gens faisaient ce qu'on appelle des amalgames, ce qu'on a appelé à l'époque des amalgames immédiats et violents. Et donc, on ne pouvait pas... Voilà. Et du coup, moi, j'avais l'impression que quelque chose m'était tombé sur la tête. Enfin, oui, on avait tous l'impression que quelque chose nous tombait sur la tête, mais doublement, puisque des lieux comme la cartoucherie, dont je ne m'attendais pas, où j'aurais aimé ne pas là, vivre... je ne m'attendais pas à vivre là ce qu'on y a vécu. Dans le cadre du débat qui avait lieu après, un jeune slameur camerounais avait été invité pour slammer entre le débat. Bon, bonne idée, pas bonne idée, peu importe, mais enfin, en tout cas, il devait slammer. Et quand notre débat a été interrompu parce que les gens disaient mais c'est pas normal, mais on a trop accueilli, mais l'islam, mais ta, mais voilà. Moi, quand je vais à la MJC de mon quartier, je peux pas boire mon verre de je sais pas quoi avec mon couscous, parce qu'on peut plus boire d'alcool. Enfin, c'était ça le débat. On n'arrivait pas à avoir un autre débat. C'était hallucinant. Les gens disaient, il va peut-être, si vous entendez des bruits, ne vous inquiétez pas, c'est dans le spectacle. Enfin, bon, comme si on allait être une sorte de... Enfin, moi, je me suis dit, bon, personne ici n'était en état de recevoir un spectacle. Personne ici n'était en état de discuter calmement. Enfin, tout le monde était devenu un peu fou. Il fallait pas rester, quoi. Et le jeune slameur, on lui a demandé de slammer. Et puis, il a commencé. Et puis, sa voix s'est enrouée. Et puis, il a dit, mais je peux pas, en fait. Ce que j'ai entendu, je peux pas. On m'avait invité, on m'a dit, tu vas voir, c'est un grand lieu de culture. Ben, en fait, on dirait le plateau de BFM TV. Il avait raison. Et c'était donc ça, nous, ça nous a vachement soulagé que lui le dise, et là il s'est fait vraiment beaucoup secouer par la maîtresse des lieux, qui l'a beaucoup beaucoup secoué en lui disant tu sais chez qui tu es, tu sais où tu es, est-ce que tu sais où tu es? Et il a répondu oui, chez toi, parce qu'il n'y a que toi qui peux parler. Et ça s'est terminé comme ça. Et donc, moi, j'étais persuadée que c'était une question, en tout cas, que c'était des questions qu'on ne pouvait pas aborder et que les gens étaient traumatisés et que voilà. Et je rentre chez moi. Et comme j'étais très, très contente que ce texte, que ce spectacle, que cette mise en scène soit jouée pendant 3 semaines à la cartoucherie, un jeune journaliste basque que je connais bien... devait venir chez moi pour me dire alors c'était comment le spectacle, c'était comment. Et quand il arrive, je lui dis non, on va pas en parler, c'était horrible, c'est juste on peut pas, me rappelle même plus du spectacle, je peux pas te dire si c'était bon, pas bon, je suis juste traumatisée par le débat qui n'a pas eu lieu mais qui nous a été empêché. Et lui, il me dit bon, mais t'as vu ce qui se passe à Baïgorry quand même? Oui, mais j'ai pas suivi, j'étais pas là, etc. Il me dit, mais ça va être dingue, quoi. C'est les alors, bon, Bayonne, Baïgorry, la côte, pas la côte. Il me dit, Baïgorry, quoi. Baïgorry, ils sont fermés. Il faut aller voir ce qui se passe là-bas. Ça va, c'est dingue. Ils ne se rendent pas compte et tout. Et les gars étaient arrivés le 15 novembre, 2 jours après. Alors, j'ai eu envie d'y aller. Et comme je ne savais pas quel dispositif... Enfin, je ne me voyais pas arriver à Baïgorry en disant, vous, les Basques, un peu comme on m'a dit comme ça, je vais venir voir comment vous vous comportez quand arrivent 50 Soudanais le 15 novembre. Je ne peux pas faire ça, même si ça m'intéresse. Mais je sais pas ce que je raconte. Alors, je téléphone au maire, en fait, enfin, à une conseillère municipale, Bernadette, que j'aime beaucoup. Et je lui dis, alors, ça se passe comment? Elle me dit, ça va pas du tout. Alors, je me disais, ça y est, ça recommence. Et elle me dit, non, tu comprends, ces routes sont très dangereuses. Il n'y a pas de lumière. Alors, il faut absolument qu'on mette un éclairage de nuit, parce que les garçons, ils marchent la nuit, parce qu'ils ont envie de marcher sur les routes. Et du coup, il va y avoir un accident. C'est très dangereux pour eux. Ah, je me disais, c'est pas tout à fait le même discours. Le fait qu'ils soient musulmans pose problème à personne. Et enfin, ça n'avait pas été évoqué, en fait. Et je lui ai dit, peut-être que si vous avez besoin de gens pour, par exemple, donner des cours de français, puisque je savais qu'il mettait en place des cours de français, je peux peut-être proposer mes services. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, ça me donnait une raison. Et puis, j'ai donné des cours de français en vrai, hein, je l'ai fait. J'avais des intentions, évidemment, c'était de suivre ce qui se passait. Mais j'ai donné, en effet, des cours de français. Et ça m'a permis d'y aller en ayant une place que je trouvais juste, quoi. Comme vous avez dit tout à l'heure, observation participante, mais vraiment participante pour le coup, et quand même beaucoup d'observations. Et j'ai appris comment ça s'était passé, c'est-à-dire le 15 novembre, quand ils sont arrivés, beaucoup de personnes du village, puisqu'ils étaient 200 à peu près, les attendaient. Donc les gens sont arrivés, ils étaient 50, 200 personnes les attendaient avec la soupe, la soupe, enfin tout ce qu'ils avaient prévu à manger, etc. Les jeunes étaient très effrayés de voir tout ce monde. Ils se réfugiaient sur leur téléphone portable. Bon bref, ça a été une expérience qui a été remarquable, qui s'est pas poursuivie avec la préfecture, puisque la préfecture avait donné un temps limité. Donc ça a duré 6 mois avec la préfecture, et qui s'est, pour ceux qui ont voulu rester, qui s'est poursuivi de fait pour ceux qui ont choisi de demander l'asile là. Mais à l'époque, c'est très différent aujourd'hui, il y a dans ce qu'on appelle les CAO, etc. Ils n'avaient pas du tout l'obligation de demander l'asile en France. Ils pouvaient conserver leur idée de le demander en Angleterre, par exemple, puisqu'ils avaient été ramenés de Calais. Ils pouvaient conserver cette idée-là. D'ailleurs, certains sont partis et sont aujourd'hui, on a des nouvelles, en Angleterre. Certains ont voulu demander l'asile là, d'autres sont partis à Paris, enfin bref. Mais aujourd'hui, sur les 50 personnes, il doit y en avoir une quinzaine qui résident dans ce village, ou proche, pas loin, ou dans le village, ou pas loin. Ce qui, quand même, est une belle aventure humaine. Et moi, j'oublierai jamais la messe de minuit, parce que ce sont des villages qui sont traditionnels et qui traditionnels sont très catholiques, en fait, très catholiques. Ça veut dire les gens sont pratiquants, croyants, je ne sais pas, pratiquants, c'est sûr. Et la messe, ça compte. Et le jour de la messe de minuit, à Noël, les bénévoles, enfin les gens qui venaient pour aider à faire à manger, etc. Mais les gens accueillis faisaient à manger aussi. Hein, il y avait une sorte de rotation comme ça. On dit, vous êtes invités à la messe de minuit. Tout le monde était musulman dans les gens qui sont arrivés, sauf quelques Érythréens. Et donc les Soudanais, une quinzaine de Soudanais sont venus à la messe de minuit, en fait. Et ils sont venus un peu en retard. Ils étaient un peu en retard. Ça avait commencé. Et le prêtre qui avait commencé, son nom, il s'est arrêté. Il est descendu et il a dansé ce qu'on appelle l'aurejku, qui est la danse, en fait, qu'on danse devant un personnage important qui revient au pays. Alors, par exemple, quand les gens ont été exilés, les Basques ont été exilés, se sont exilés volontairement parfois et sont revenus après au pays. Alors, quand quelqu'un a été exilé longtemps et qu'il revient, tel Ulysse, pour l'honorer, on lui danse l'aurejku, et le prêtre, lui, a fait ça. Il est descendu là, il a interrompu la messe et il a dansé la Ouechkou, ce qui a été extrêmement émouvant, même pour, évidemment pour toute la communauté qui était là, mais aussi pour la communauté accueillie qui arrivait en nombre, on va dire une quinzaine de personnes pour la messe de minuit, qui ne connaissaient pas la signification de cette danse, mais en fait, ils ont compris tout de suite. Ils ont compris tout de suite. Du coup, ça a été une expérience incroyablement forte, avec plein d'histoires, vous imaginez, de toutes sortes d'ailleurs, joyeuses pour la plupart, des inquiétudes parfois. Alors, le maire avait dit, avait écrit une lettre personnalisée à chaque personne du village. Il n'y en a pas beaucoup, c'est faisable. Et avait dit, si vous avez des questions, des inquiétudes, etc., venez me voir, il n'y a pas de problème et tout. Du coup, il y a eu en effet des questions, mais très peu. Il y a eu des questions, par exemple, il y a une famille qui s'était installée là il y a une dizaine d'années et qui a dit, ah, mais nous, on a quitté la région parisienne pour être en paix, c'est pas possible, vous allez nous ramener des soucis, des tracas et tout. Et le maire leur a pas... On va monter une association de riverains contre. Ouais. Alors, le maire, il dit pas du tout... il dit pas non, il dit pas oui, il dit OK, mais la chaille, OK, mais tu viens d'abord... tu viens pareil vendredi. Tu viens pareil vendredi pour... on a besoin, on a personne. Ça serait bien vendredi qu'il y ait un peu plus de monde et tout. Alors, les gens, ils sont venus parce que c'est dans la relation, parce que c'est... Et en fait, ça a été terminé. Plus jamais personne n'a entendu parler de cette fameuse association qui devait se monter. Ils ont mis la main à la pâte, en fait. Ils sont allés chercher des chaussettes et des... oui, des chaussettes et des bonnets, des chaussettes chez eux, quoi, de leurs fils, les filles. Et puis, ils ont partagé les chaussettes. Et on n'a plus entendu parler de ça. Donc, vraiment, c'est une expérience qui a vraiment... En plus, qui a fait du bien à plein de niveaux. Parce que qui a consolidé... les liens de la communauté d'origine, de la communauté basque aussi. C'est-à-dire, c'était important aussi. C'est-à-dire, ils étaient contents d'eux, les gens. Ils étaient vachement contents d'avoir réussi ça. Et donc, ça crée des liens entre gens qui se connaissent déjà plus ou moins et qui ont bossé ensemble, qui sont beaucoup plus soudés, en fait. Hein, ça veut dire qu'aujourd'hui... Alors, par exemple, je donne un exemple. Ça, c'est 2015. 2019, on avait le G7 à Biarritz. C'était pas rigolo.
Là, c'est y avait, dans l'actualité la plus récente.
Ouais, là, c'est cet été. Donc, le G7, à peu près 60 personnes mineures, des mineurs qui sont logés dans des familles à Bayonne, dans une ville voilà, moyenne, Bayonne. 60 mineurs avec... et on dit, enfin, pas moi, mais les gens qui... disent, ah, c'est embêtant avec le G7, parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout été... aucun policier était là pour contrôler des migrants. Mais enfin, l'inquiétude était là quand même. Si jamais ils sont contrôlés, oh, ça va être compliqué pour eux. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, on les met à Baïgorry. C'est pas un problème. Enfin, donc, ils sont partis en vacances de la semaine du G7. Enfin, c'était plus qu'une semaine parce qu'il y avait beaucoup de policiers avant aussi. Il y en a eu un peu après aussi. Mais ça veut dire que pendant au moins 15 jours, ils ont eu des vacances à la campagne. Ceux qui voulaient, hein, parce que certains n'avaient pas du tout envie d'aller à la campagne. Mais ceux qui étaient d'accord pour partir à la campagne, ils sont partis. Du coup, voilà, c'est des villes ou des expériences qui créent les nouvelles expériences possibles après, quoi.
Et le jour de répit à Baïgorry, donc, continue, alors.
Voilà, ça donc, continue.
Voilà, c'est vraiment une invitation
c'était pas gagné,
à lire jour de répit à Baïgorry. Et comme l'heure tourne, juste pour conclure, ton dernier livre, là, parce que, évidemment, c'est des catégories... on a bien vu que c'était des catégories ou des directions qui sont mêlées voilà, dans un mouvement. Le dernier livre de Marie, donc Les enfants de l'aurore, hein, entremêle tout cela, hein, puisqu'on trouve à la fois, c'est une Iliade d'aujourd'hui, alors c'est pas l'Odyssée, là c'est l'Iliade d'aujourd'hui, la question des réfugiés, l'écriture aussi, comme tu l'as dit aussi, la question de la traduction qui est tout à fait présente ici, on la voit. Pour l'enseignement, je ne sais pas, peut-être. Et pour terminer, je voudrais juste lire un petit peu quelques deux paragraphes. C'est maintenant qu'il faut choisir. On ne sait pas bien ce qui va se passer. Comme voix, on a celle disparue de Sophocle dans les Éthiopiens et celle vivante d'Ovide dans les Métamorphoses au livre 13. On a aussi la voix du cheval de Belleville, comme on aime bien dire. Chez Sophocle, Calus peut être Ovide, Memnon est rentré au pays. Lui, dont Pindare disait qu'il est l'enfant qui ne rentre pas au pays, est rentré au pays. Il y est rentré sans vie, comme parfois les enfants d'Afrique y sont rentrés de force, après que des Zeus de pacotille et d'administration ont joué les pires arbitres qui soient, à distribuer empêchement et refus de séjour. Parfois le corps des petits se perd dans les eaux ou les sables. Parfois on cherche un nom et des eaux, et le nom et les eaux sont restés dans les eaux et les sables. Memnon, c'est dans le tablier de sa mère qu'il revient, par les airs ou les vents. Memnon revient mort au pays, et le pays se met en transe, en vrille, en boule, en l'air, en l'air. Le petit est chaque petit. Le petit et tous les petits d'Éthiopie, tous les petits d'Éthiopie prennent l'air, l'aile, les ailes, bruissent du bec, cliquettent, prennent les airs. Des oiseaux noirs. Voilà, les enfants de l'aurore. Pour terminer, donc tu vas. Alors, ça, c'est ton dernier livre, mais dans quelques jours, ou dans. C'est ça, ou la semaine prochaine, paraît.
La semaine prochaine, je pense.
Un livre donc, ouais. Que tu vas coécrire. Alors, peut-être, on va prendre un temps de parole, parce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, comme par exemple tes écrits d'intervention. Là, fin août, Marie a publié un article dans Libé, dans Libération, ce que l'exil fait à l'enfance. Vous le trouvez sur Internet. Et justement, comme je parle d'Internet, il y a la question aussi de l'intervention dans l'espace numérique, et en particulier dans les réseaux sociaux. Mais ça, je propose peut-être quoi, éventuellement qu'on y revienne. Tu peux nous dire un mot de ce livre qui arrive,
livre
celui
à...
avec Mathieu Podbon?
Le livre à venir s'appelle Voir venir. Ça y est, il y a un sous-titre, je le perds.
Accueillir, l'accueil.
J'ai perdu le sous-titre du livre. C'est pas grave. Hein. Éthique de non, politique de. Je sais plus.
De l'accueil.
Oui, politique de l'accueil, quelque chose comme ça. Et en réalité, voilà, on l'a écrit à deux, donc avec Mathieu Podbonneville, qui est philosophe. On a, lui, depuis l'endroit où il vit, à savoir Paris, et où il accueille, et puis moi, depuis l'endroit où je vis aussi, partagé nos expériences sur la question du récit, des récits, de la manière dont on fait récit de ces récits, de la manière dont on... Pourquoi le mythe toujours nous arrive quand on parle de ces... épopées-là, tragiques et contemporaines. Tout ça, on essaie de le tisser, de le tricoter ou détricoter, je ne sais pas, de le comprendre en tout cas. Qu'est-ce qui fait épopée? Qu'est-ce qui nous fascine aussi quand on est fasciné? Comment on en parle? Comment voilà. Et puis après aussi, c'est un livre dans lequel on ce qui est très concret, qui est l'accueil au quotidien, au jour après jour. Toutes les questions que ça pose, enfin, pas toutes, parce qu'on n'a pas eu le temps, mais enfin, on pourrait continuer, disons, plus tôt. Mais une grande partie des questions éthiques, philosophiques, concrètes aussi, et souvent la même chose, qui se posent quand on accueille quelqu'un chez soi, qui n'est pas venu chez soi, en fait. Personne n'est venu chez moi. Mais parfois, des gens s'y trouvent. Du coup, quelles sont les questions et que ça nous pose et que ça leur pose?
Très bien. Ben merci, voilà. Marie. On va entendre.
Merci.
Donc le dialogue de l'écrivaine et du philosophe.